RFI, 22h à Paris, 20h en temps universel.
Christophe Paget.
Téhéran annonce la construction d'un nouveau site d'enrichissement de l'uranium, juste après l'adoption par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, d'une résolution contre Téhéran pour non-respect de ses obligations en matière nucléaire. Et alors que de nouveaux pourparlers sont prévus dans quelques jours avec les États-Unis. Dans ce journal, on reviendra aussi sur le crash d'un avion peu après son décollage. Ça s'est passé dans le nord-ouest de l'Inde. Bilan, au moins 165 morts. L'avion s'est écrasé sur une zone très densément peuplée. Et puis Rima Hassan est arrivée en France ce soir après avoir été détenue en Israël pour avoir tenté de se rendre à Gaza. Le vol aurait été mouvementé. L'eurodéputée insoumise aurait, selon une source de l'AFP, dû se réfugier dans les toilettes de l'avion suite à un mouvement de voyageurs hostiles.
RFI.
L'Iran va construire un nouveau site d'enrichissement de l'uranium et augmenter significativement sa production d'uranium enrichi. Annonce faite par Téhéran ce jeudi, juste après la décision de l'Agence internationale de l'énergie atomique d'adopter une résolution contre Téhéran pour non-respect de ses obligations en matière de nucléaire. Bref, regain de tension, alors que de nouveaux pourparlers sont prévus avec les États-Unis dimanche. Pierre-Olivier.
De l'avis même du ministre iranien des Affaires étrangères, cette résolution, adoptée ce jeudi, ajoute à la complexité des discussions avec Washington. Car dimanche prochain doit avoir lieu, sous la médiation du sultanat d'Oman, un sixième cycle d'échanges entre les États-Unis et l'Iran. Mais l'annonce de ce jour par Téhéran d'augmenter significativement sa production d'uranium enrichi est en totale opposition avec les exigences américaines. Pour justifier sa décision de lancer un nouveau centre d'enrichissement, l'Iran dit s'étonner que cette résolution n'ait été adoptée que par 19 pays sur 35. Reza Najafi est le représentant de l'Iran à l'AIEA.
Aujourd'hui, nous constatons que le Conseil des gouverneurs de l'AIEA a été complètement divisé et qu'une résolution à motivation politique soumise par Paris, Londres, Berlin et les États-Unis a été adoptée avec le vote le plus bas possible. Donc les auteurs de la résolution devront assumer les conséquences de la résolution qu'ils ont présentée lors de la réunion du Conseil des gouverneurs.
Jusqu'à présent, malgré tout, Américains et Iraniens ont confirmé leur présence dimanche. À Oman.
265 morts, dont une vingtaine au sol. C'est le bilan provisoire de l'accident d'avion qui s'est produit ce jeudi en Inde. Un Boeing 787 de la compagnie Air India, à destination de Londres, s'est écrasé sur une zone très peuplée, juste après son décollage de l'aéroport international d'Ahmedabad, dans le nord-ouest du pays. Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on voit l'appareil perdre très rapidement de l'altitude et s'écraser. Pour le moment, on dispose de très peu d'éléments sur les causes de la catastrophe. Ce qui est certain, c'est que le pilote cherchait à reprendre de l'altitude, mais qu'il n'y arrivait pas. Gérard Felzer est un ancien pilote de ligne, consultant en aéronautique et président d'Aviation Sans Frontières.
On ne pouvait pas avoir pire que ce qui s'est passé, c'est-à-dire un avion à charge maximum au décollage pour aller à Londres, plein de kérosène, donc il a pris feu instantanément, avec une altitude très basse qui l'empêchait d'aller planer pour se poser quelque part, comme l'avait fait l'Américain dans la baie d'Hudson. Donc, le pauvre pilote ou les pauvres pilotes, ils n'avaient pas de choix. Maintenir l'avion en état de vol le plus longtemps possible, ça a duré quoi ? Une minute d'enfer, parce qu'ils pouvaient absolument rien faire, avec le train sorti d'ailleurs. Donc, il a eu le temps, malgré tout, de lancer un message de détresse, « M'aidez, m'aidez, m'aidez », pour avoir une priorité, pour essayer de trouver une solution. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Gérard Felzer, joint par Daniel Vallaud. L'Allemagne annonce qu'elle va verser près de 2 milliards d'euros à Kiev pour sa défense, 1 milliard 900 millions d'euros exactement, pour un total cette année de 9 milliards d'euros. Pour autant, le ministre allemand de la Défense, qui est actuellement en visite à Kiev, a aussi indiqué que Berlin n'envisageait pas de livrer de missiles longue portée Taurus à l'Ukraine, malgré les demandes du président Volodymyr Zelensky. À Gaza, la défense civile annonce 22 morts dans des bombardements israéliens, dont 16 tués alors qu'ils attendaient des distributions d'aide alimentaire. Ce jeudi, le Hamas qualifie la Fondation humanitaire de Gaza, fondation soutenue par les États-Unis et censée distribuer cette aide, de machines ignobles utilisées pour attirer des civils dans des pièges mortels. Israël, de son côté, accuse le Hamas d'instrumentaliser la souffrance à Gaza. Pendant ce temps, en Égypte, plus de 200 militants ont été interpellés à leur hôtel ou retenus à l'aéroport du Caire, annonce faite par un des organisateurs d'une marche internationale vers Gaza. Une marche apolitique, pacifiste, citoyenne, autofinancée, à laquelle ces militants de 35 nationalités ont répondu présent. Mais pour se rendre au point de passage de Rafah, il faut l'aval des autorités égyptiennes. Alexis Dezvef, le vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains, raconte les pressions contre les marcheurs alors qu'il est en route vers le Caire.
Nous avons reçu des informations comme quoi il y aurait des arrestations au Caire, que les téléphones sont confisqués, que des personnes sont arrêtées et expulsées, remises dans des avions. Visiblement, les autorités israéliennes font pression sur les autorités égyptiennes pour empêcher les marcheurs de se rassembler au Caire et de se retrouver ensuite à Al-Arish, qui se trouve à 50 km de Rafah. Le but était de rejoindre Al-Arish à Rafah à pied à partir de demain. Voilà, alors nous verrons lors de l'arrivée au Caire ce qu'il en est. Dans la mesure où nous avons demandé l'autorisation à l'ambassade égyptienne il y a une dizaine de jours et que nous avons demandé ensuite un visa que nous avons obtenu, je serais extrêmement surpris négativement de me voir arrêté et expulsé alors qu'ils m'ont accordé un visa.
Alexis de Zwef, joint par Alice Froussard. Quant aux passagers du bateau humanitaire qui tentait en début de semaine de rejoindre la bande de Gaza, 6 d'entre eux, dont l'eurodéputée française Rima Hassan, ont été mis aujourd'hui dans un avion en partant d'Israël. Et Rima Hassan est arrivée ce soir en France. Le vol aurait été mouvementé. Selon l'AFP, qui cite une source aéroportuaire, il y a une situation conflictuelle à bord avec d'autres voyageurs. Rima Hassan a dû se réfugier dans les toilettes de l'avion suite à un mouvement de voyageurs hostile. Toujours selon cette source, l'eurodéputée LFI a dû être évacuée de l'avion par la police aux frontières. En Irlande du Nord, des ressortissants étrangers ont été contraints de se cacher dans des greniers ou des penderies pour échapper à une vague de violence visant des immigrés. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi la police, qui a lancé un nouvel appel au calme. Car cela fait 3 nuits que plusieurs villes sont la proie de violence après l'inculpation de 2 adolescents pour tentative de viol. La police parle de violence raciste. Elle n'avait pas communiqué sur l'origine des 2 suspects, mais la presse britannique a affirmé que lors de leur comparution au tribunal, lundi, ils s'étaient exprimés par l'intermédiaire d'un interprète roumain. Les violences qui ont suivi se sont produites dans un quartier de Ballymena, à quelques dizaines de kilomètres de Belfast, où vit une importante population immigrée. RFI, 3h07 à Hanoï, au Vietnam, où l'État impose une cure d'austérité sans précédent à son administration. Cure qui n'est pas sans rappeler la vaste offensive lancée aux États-Unis par le président Donald Trump. Et c'est un tournant majeur pour le Vietnam, dirigé depuis la fin des années 70 par le Parti communiste, puisque jusqu'à présent, être fonctionnaire signifiait bénéficier d'un emploi à vie. Mais voilà, la croissance économique est aujourd'hui menacée par l'offensive douanière de Washington, et les dirigeants vietnamiens s'y préparent. Heike Schmidt.
Tho Lam, l'homme fort du pays, avait prévenu en février dernier « Les agences de l'État ne doivent pas devenir des planques pour des fonctionnaires médiocres ». Et le chef du parti unique avait solennellement promis que l'État allait se séparer des tumeurs pour avoir un corps fort et en bonne santé. Depuis, 23 000 fonctionnaires ont perdu leur poste. Le nombre de ministères et agences gouvernementales a été ramené de 30 à 22. Aujourd'hui, cette saignée continue. L'Assemblée nationale a massivement approuvé de nouvelles coupes drastiques. Le nombre de provinces sera réduit de moitié, une réforme qui entraînera la suppression de quelques 80 000 postes supplémentaires. Une révolution dans un pays où les dépenses courantes et les salaires des fonctionnaires représentent actuellement 70 % du budget national. Mais la menace de Donald Trump d'imposer une surtaxe de 46 % sur les produits vietnamiens donne des sueurs froides aux dirigeants. La cure d'austérité infligée à l'administration est une manière d'y répondre.
Une minute de silence ce jeudi à midi dans les établissements scolaires de France pour l'assistante scolaire assassinée. Un temps de recueillement en hommage à cette jeune femme de 31 ans tuée mardi à coups de couteau par un collégien de 14 ans qui a été mis ce jeudi en examen pour meurtre. Il risque 20 ans de réclusion criminelle. Toujours en France, dissolution de 2 mouvements, la Jeune Garde, un mouvement antifasciste, et Lyon Populaire, un groupe d'ultra-droite, dissolution prononcée en Conseil des ministres et annoncée par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a promis de ne rien laisser passer. Mais la dissolution du groupe antifasciste Jeune Garde ne passe pas à gauche, surtout auprès de Jean-Luc Mélenchon. Le chef de LFI, la France Insoumise, accuse Bruno Retailleau de s'aligner sur l'extrême droite. Enfin, le leader indépendantiste kanak, Christian Théin, a été libéré ce jeudi. Il était en détention provisoire depuis 1 an dans le cadre de l'enquête sur les émeutes qui avaient fait plusieurs morts en Nouvelle-Calédonie au printemps de l'année dernière. La cour d'appel de Paris l'a libéré. Le président du FLNKS a toujours nié avoir appelé à commettre des violences et se présente comme un prisonnier politique.